Bonjour et bienvenue à l'écoute de Ça se discute, le magazine mensuel des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Le quatrième lundi de chaque mois, un espace pour découvrir, débattre et discuter de l'actualité de notre association. Ce soir, c'est en compagnie de Pierre, Guillaume et Roxane que nous allons nous pencher sur un événement majeur de cette année 2014, le congrès des éclaireurs et éclaireurs unionistes, qui se déroulera à Lusignan fin août. Je serai ce soir accompagné de Paul, Céline et Maxime, et je les en remercie. Vous pouvez suivre notre émission sur les réseaux sociaux et gazouiller sur Twitter, Homodies ça se discute. On remercie à ce propos Roxane qui tient le compte Twitter Congrès 2014 et nos amis de La Toile Scout que vous pouvez retrouver aussi sur latoilescout.net. Le 22 février dernier, c'était un jour particulier pour des millions de scouts dans le monde entier, puisqu'il s'agit de la journée mondiale du scoutisme, le Thinking Day. On commence donc cette émission par un focus sur cet événement annuel avec Paul. Donc si tu pouvais déjà nous en dire un petit peu plus sur cette journée du 22 février.
Alors, le 22 février, initialement, c'est un jour comme les autres, il y en a 365, sauf que en 1857 et en 1882 sont respectivement nés, et on notera la différence d'âge, Baden-Powell et Olaf Baden-Powell, sa femme. Et donc, le 22 février, c'est le jour anniversaire de leur naissance, tous les deux fondateurs du scoutisme masculin et féminin. Donc cette journée, elle s'appelle, comme tu l'as dit, le Thinking Day, elle s'appelle le Founders Day aussi, ou le BP Day, et voilà, c'est la journée mondiale du scoutisme. Initialement, cette journée, elle a été créée en 1926, lors de la conférence internationale du guidisme de cette année-là. Et le but du jeu, c'était de se dire qu'on se donnait une journée pour que chaque éclaireuse ou guide, Louvette, Jeannette, etc., marque cette journée d'une pensée à ses sœurs, puisque le guidisme forme une sororité mondiale. Et en fait, avec le temps, la journée a été célébrée par les mouvements masculins eux aussi. Et a pris de l'ampleur jusqu'à devenir cette fameuse journée mondiale du scoutisme qui chaque année a un thème, par exemple réduire la pauvreté, améliorer la condition des femmes, défendre et protéger notre environnement. Et cette année, c'était les partenariats en vue du développement. Voilà ce que c'est que le 22 février.
Et alors cette année, une action particulière a été mise en place en France avec le scoutisme français, l'opération Scout un jour. Si tu peux nous en dire pareil un petit peu plus.
Alors Scout un jour, c'est initialement quelques mouvements du scoutisme français qui se sont dit tiens, on va profiter du 22 février pour faire vivre un événement en France. Est donc un événement de témoignage autour de l'idée que lorsqu'on a été scout un jour, justement, on a probablement découvert des choses, notre personnalité a changé, etc., etc. Et donc le but de cette journée, c'est d'abord d'éclairer la société du témoignage d'anciens scouts, donc avec ces célébrités bien sûr, mais aussi tous les anciens qui peuvent témoigner. L'idée aussi, c'est de faire collectif en fait, se dire que tiens, quand on ouvre le journal ou quand on ouvre son compte Twitter, on se rend compte que notre collègue, notre ami ou telle personnalité a elle aussi été scout, et de se rassembler autour de ce mot d'ordre Scout un jour, donc qui est vécu sur le site scoutunjour.fr et au hashtag, donc au mot dièse Scout un jour, sur les réseaux sociaux.
Et donc, concrètement, ça s'est traduit par quoi? Des vidéos, des textes
Alors, ça s'est traduit par des témoignages qui ont utilisé pas mal de supports, donc vidéos, audio, textes. Et puis, ça s'est surtout traduit par des petits messages qui étaient conclus par donc ce fameux mot dièse Scout un jour. et qui disait voilà ce que ça m'a apporté, moi aussi, enfin simplement une sorte de, pas de confession parce que c'est pas un péché, mais de révélation, de dire bah voilà, moi aussi j'ai été scout un jour, etc., etc. Et donc beaucoup de gens ont fait ce qu'on appelle leur scouting out ce jour-là, en signalant à leur entourage, à leur environnement, à leur réseau qu'ils avaient été scouts.
Alors, ce n'est pas un scoop, mais on va maintenant écouter le témoignage de Laurent Schlumberger, président de l'Église Unie, qui s'est prêté au jeu et qui a fait une belle vidéo parlant de son passé scout et de sa vision du scoutisme.
Peut-être que ce qui est le plus important de ce que j'ai vécu dans le scoutisme, c'est la confiance. C'est les mouvements scouts et les clercs unis, c'est un lieu où on fait confiance. Et on fait confiance au bon niveau. C'est-à-dire que on n'est pas écrasé par la confiance qui est faite, mais on fait confiance à l'enfant de 8 ans en fonction de ce qu'il peut faire, à l'enfant de 10 ans en fonction de ce qu'il peut faire, aux responsables en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Il y a très peu d'endroits dans la société où on fait confiance au bon niveau. Et cette confiance reçue, elle permet de grandir, elle permet d'expérimenter des choses avec bienveillance, c'est-à-dire que si on fait une erreur, c'est pas grave, on recommencera. Donc c'est un lieu où on grandit grâce à la confiance reçue, puis retransmise à son tour, la confiance partagée. Peut-être que c'est ce que j'ai le plus reçu dans le scoutisme, et c'est ce que j'ai le plus expérimenté, le fait qu'on grandit dans sa propre vie grâce aux autres. Ça me paraît vraiment capital, parce que c'est quelque chose qu'on ne vit pas ailleurs ou dans très peu d'endroits. Dans la famille, ça va de soi. Il y a une immédiateté des liens par rapport à ça. À l'école, il faut faire ses preuves. Tant. Dans quel endroit est-ce qu'on peut recevoir une confiance a priori, et qui est toujours renouvelée, et qui permet aussi de grandir, d'oser des choses, des réalisations, et donc qui est accompagné d'une certaine exigence? Il y a très peu d'endroits. Le scoutisme, c'est peut-être l'endroit où ça se vit le plus et mieux. Le scoutisme, ça a beaucoup influencé directement et indirectement mon parcours et mes choix de vie. Aujourd'hui, je suis pasteur, et je suis président de l'Église réformée de France, et c'est dans le scoutisme que j'ai découvert la foi vivante en Jésus-Christ. Alors, j'en avais entendu parler dans ma paroisse, dans ma famille, mais c'était comme quelque chose d'un peu lointain, quelque chose qui n'avait pas une prise directe sur mes choix personnels. L'endroit où je l'ai découvert de manière vivante et personnelle, de manière assumée, et donc j'en ai tiré les conséquences pour mon engagement professionnel et pour toute ma vie, c'est dans le mouvement éclairionianiste. Donc ça a eu un impact très direct pour moi. Mais ça a contribué aussi à ce que j'ai vécu dans le scoutisme, à façonner mon caractère, justement à cause de cette confiance reçue et partagée, des expériences que j'ai pu faire. Dans le scoutisme, on tente des trucs, on fait un peu des coups, on se lâche, on va au-delà de ce qu'on ferait normalement, parce qu'il y a l'esprit d'équipe, parce qu'il y a cette confiance première, parce que on essaie les choses à notre mesure et avec une simplicité de moyens. Donc on peut tenter des choses qu'on ne tenterait nulle part ailleurs. Donc on apprend petit à petit à s'appuyer sur les autres, à ce que les autres s'appuient sur soi. On apprend à trouver ses limites. Tout ça dans un climat à la fois d'exigence, de sérieux si je peux dire, mais de bienveillance fondamentale. Donc c'est là qu'on peut découvrir peut-être qui on est. C'est dans des lieux comme ça qu'on peut découvrir qui on est, interpréter sa vie et donc construire petit à petit sa vie.
Alors cette journée du 22 février qui a permis à un certain nombre de personnes de parler du scoutisme sur les réseaux sociaux, notamment, il faut le signaler, par exemple la ministre de la Jeunesse et des Sports qui a participé à ce mouvement en nous souhaitant à tous les scouts un bon 22 février, qui a été pas mal aussi relayé sur les réseaux sociaux. Mais donc il y a eu aussi un vaste mouvement pour les jeunes sur Facebook et sur Twitter, avec notamment par exemple le changement des photos de profil des jeunes qui abordaient leur foulard sur Facebook, alors qu'il n'est pas forcément toujours facile pour un jeune d'assumer le fait qu'on fasse du scoutisme en 2014. Et donc justement, qu'est-ce que ça montre aujourd'hui de l'image du scoutisme, et qu'est-ce que le scoutisme aussi peut-être montre de lui-même à travers ce type d'opération, Paul?
Alors en fait, je pense que ça recentre la perception du scoutisme sur ce que le scoutisme est vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Quand on dit, voilà, j'ai été scout un jour, et du coup, j'ai grandi, j'ai découvert l'autonomie, l'initiative, le projet, etc., on raconte ce que le scoutisme nous a apporté concrètement, et on n'est plus seulement dans les clichés « j'ai porté des shorts »,« je me suis gratté le doigt avec des orties », etc., etc. Mais on est, à mon avis, un peu plus dans le vrai lorsqu'on lance ce genre d'opération. Et bien sûr, ça montre aussi qu'on est relativement nombreux, modernes, puisque l'opération se déroule en partie sur les réseaux et en tout cas sur Internet. Et voilà, enfin, c'est aussi une façon de dire, finalement, on n'est plus tellement en train d'écrire des trucs sur des bouts de bois avec nos opinels, on est capable de faire un tweet et de faire un tweet un peu juste, quoi.
Très bien. Et donc, Scout un jour, c'est aussi l'occasion pour d'anciens scouts de faire leur... leur scouting out. Et donc, on va écouter une chanson de Renaud, qui est lui-même un ancien éclair-unioniste, et on dédie cette chanson à Jean Daniels, qui nous écoute régulièrement, on le sait.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier, mon navire, il est beau.
Retour en plateau donc avec nos invités pour parler du sujet principal de ce soir, le congrès 2014 des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France qui, je vous le rappelle, se déroulera fin août à Lusignan. Ce soir avec nous donc Pierre, pour commencer, donc membre du conseil d'administration, membre de l'équipe régionale Yvelines, membre de l'équipe Congrès. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Alexis.
Qui est déjà venu plusieurs fois à Ça se discute. Ensuite, nous avons Guillaume, qui est responsable donc à Marly-le-Roi et qui
à Saint-Germain-en-Laye.
À Saint-Germain-en-Laye, ouais. Excuse-moi, et qui a fait un certain nombre d'actions concrètes dans le cadre du Congrès. Bonsoir.
Bonsoir.
Et pour finir, Roxane, qui est donc bénévole pour la communication à l'échelon national. Bonsoir Roxane.
Bonsoir Alexis.
Et qui est derrière son smartphone pour pouvoir nous faire suivre en direct cette émission. Je vous rappelle, Homo Diez, ça se discute. On va commencer donc dans un premier temps avec toi, Pierre, sur une présentation générale du congrès. Alors, pour commencer, tout simplement, quelques chiffres. le congrès?
Bah, le congrès, c'est déjà c'est 4 jours d'événements, 4 super journées, avec entre 80 et 100 bénévoles qui sont déjà impliqués dans l'organisation de ce congrès, soit le plus gros groupe d'adultes en action pour ce mouvement. C'est 8 sous-camps, on attend 1000 participants pour recréer le deuxième centenaire du scoutisme, puisque nous avons fêté il y a 3 ans notre centenaire, et nous préparons gentiment les 100 ans d'avenir qui nous attendent pour le mouvement.
À qui est destiné cet événement ?
Alors c'est un rassemblement des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, donc c'est un rassemblement national qui est organisé par le mouvement, pour tous les responsables et les cadres locaux, régionaux, nationaux de notre association. C'est également l'occasion d'inviter des amis du mouvement et des anciens à revivre un moment de réflexion et de fête autour des valeurs du scoutisme unioniste. Donc nous avons l'intention de rassembler avec tout ça environ 1000 personnes.
Et donc du point de vue des statuts de l'association, du point de vue de l'histoire de notre association, quelle est la place du congrès ?
Alors les congrès ont toujours eu une importance historique dans notre mouvement. Alors nos statuts prévoient que le congrès doit avoir lieu en moyenne tous les 5 ans. Nous avons eu, du coup je le disais tout à l'heure, les célébrations du centenaire en 2011 qui ont rassemblé tous les unionistes autour d'un beau projet, donc il n'y avait pas eu de congrès cette année-là, et donc le conseil d'administration avait pris la décision d'organiser un congrès en 2014, soit 9 ans après le dernier congrès qui avait eu lieu pour mémoire à Albi en 2005.
Et donc justement, d'autres congrès par le passé, tu peux nous en citer quelques-uns, et puis concrètement ce qu'ils avaient apporté, enfin... Congrès, en tant que responsable, c'est aussi des choses marquantes du point de vue de l'histoire, de l'orientation du mouvement.
Tout à fait. Alors il y a en mémoire les congrès de 91 et de 97, parce que avant j'étais pas encore né, donc je pouvais pas savoir ce qui se passait. Un fait marquant, c'est que le congrès de 97 a été l'occasion d'écrire le projet éducatif que nous avons aujourd'hui et avec lequel nous vivons nos projets de scoutisme unioniste. Et on pense que le congrès de 2014, ça sera l'occasion de se questionner sur ce projet éducatif et questionner sa pertinence par rapport à la société en mutation dans laquelle nous vivons.
Alors, très belle transition justement, parce que je voulais ensuite te demander quelles étaient les dynamiques, quels étaient les thèmes de ce congrès, un congrès 2014, pourquoi faire ?
Alors le thème de notre congrès cette année, ça c'est dans un monde en mutation, un engagement durable. Donc ça va être une occasion pour que chacun puisse se réunir et se rassembler au même endroit pour partager des expériences unionistes, qu'on réfléchisse ensemble à nos acquis en tant que scouts et à nos projets communs, ceux qu'on a vécu dans le passé et ceux qu'on va pouvoir construire ensemble dans l'avenir. Tout ceci en rencontrant plein de gens qui interagissent autour du scoutisme, que ce soit nos partenaires associatifs, notre réseau, pour nourrir ce dialogue que nous avons inter-associatif avec tous ces partenaires qui sont à nos côtés.
Un vaste, vaste projet. Alors si on devait synthétiser, entre guillemets, retenir quelques 2-3 choses de ce congrès, ce serait quoi ?
Vivre du scoutisme, faire la fête, vivre de l'engagement et de la citoyenneté. Tout ça autour d'un programme chargé, agréable et je pense plein de surprises pour tout le monde.
Alors justement, pareil, très bonne transition. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Il me semble, hors antenne, tu nous parlais du cahier des charges du conseil d'administration. Tu parlais bien d'un événement national. Concrètement, comment c'est passé ? Depuis quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce projet ? Et avec quelle demande de la part de l'association globalement ?
Alors, le conseil d'administration avait commencé à réfléchir pendant le courant de l'année 2012 à l'organisation de ce congrès. Elle avait arrêté le principe de l'organisation d'un congrès. Puis il y a eu un recrutement qui s'est fait pour trouver une équipe qui porterait ce congrès. Une équipe qui a été mandatée en décembre 2012 et à qui on a dit « Voilà les rênes de l'association, préparez-nous un projet pour ce congrès et présentez-nous votre projet en juin, donc en juin 2013. Et ensuite, on vous fera toute confiance si le projet est retenu par le conseil d'administration. » Et donc en juin dernier, le conseil d'administration a retenu notre projet. Et donc depuis, on est en train de développer et de réaliser, concrétiser ce projet qui a été validé par le conseil d'administration.
L'équipe pilote, les premiers qui sont partis là-dedans, dans ce projet assez gigantesque, vous étiez combien au début ?
On était 8 dans l'équipe très resserrée, et puis on a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints. Je pense qu'on est à peu près 10 aujourd'hui dans cette équipe cadre qui fait avancer le congrès, mais c'est que la pointe de l'iceberg, puisque nous avons, je le disais tout à l'heure, entre 80 et 100 bénévoles, donc un énorme groupe d'adultes impliqués dans l'organisation pour des tâches très diverses. Que ce soit la communication, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, ou même la présence sur les réseaux sociaux. Il y a tout un panel de compétences qui agit sur ce congrès.
Décidément, ce soir, c'est la soirée des transitions parfaites, puisque Roxane se quitte son smartphone justement pour interagir là-dessus, sur donc, ta place à toi dans le congrès. Il me semble que tu as une occupation particulière, axée autour de ton téléphone portable, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus.
Tout à fait. Ben, moi, je suis community manager, donc c'est un nouveau terme qu'on ne connaît pas bien. Certains les appellent les geeks, d'autres les asociaux, parce qu'on est souvent derrière notre téléphone à tweeter ou à être sur Facebook. Donc en fait, je gère la page Facebook avec David, un autre bénévole, et le compte Twitter, et donc on parle du congrès sur les réseaux sociaux. Donc on a aussi un hashtag, congrès UDF. Donc vous pouvez nous rejoindre, nous poser des questions, on sera toujours là pour vous répondre. Si c'est pas dans l'immédiateté, ce sera un peu plus tard, mais on vous répondra toujours. Donc sur Facebook ou sur Twitter, et on a aussi un petit site, c'est eudf2014.org. Donc là, vous trouverez toutes les infos nécessaires pour s'inscrire, pour savoir où a lieu le congrès, même si je le dis, il a lieu à Lusignan, hein, c'est pas trop un secret. Les dates, qui s'occupe de quoi. Donc vous avez plein de noms, plein d'infos sur site, sur la page Facebook, donc n'hésitez pas. Voilà.
Et donc concrètement, sur place, sur le congrès, toi, tu seras derrière ton téléphone en train de retransmettre en direct par petit caractère ce qui s'y passe, c'est bien ça pour...
C'est un peu ça, c'est un peu plus que ça aussi, parce que maintenant, les réseaux sociaux, c'est des vidéos, des photos, donc on a déjà fait des vidéos qu'on va bientôt publier, donc je pense aussi peut-être que je ferai des vidéos lors du congrès, je serai avec mon téléphone, mais au-delà de ça, j'irai aussi voir les gens et je leur parlerai, eux, de ce que, enfin, discuterai d'eux, comment ils vivent le congrès, et on essaiera de retransmettre ça sur les réseaux, parce qu'il y a des gens qui pourront pas venir au congrès. Donc eux, ils le vivront à distance, et je pense que les réseaux sociaux, ce sera le moyen d'utiliser, de faire participer ces gens qui seront pas là. Et je ferai aussi des vidéos, et notamment il y a une émission en lien avec le congrès qui s'appelle Mon petit domadi, donc je fais un petit peu la promotion. Il y a quelques vidéos, il y a 4 épisodes qui vont sortir prochainement. Donc là, on vous dévoilera un peu plus de choses sur le congrès, ce qui va s'y passer. Quel bénévole et tout ça, donc ça, c'est à découvrir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook, hein. J'insiste un petit peu.
Très bien. Pour continuer sur l'aspect peut-être plus pratico-pratique du congrès, Pierre, tout à l'heure, tu parlais de 4 jours. On a oublié de préciser les dates, on a dit que c'était à Lusignan, mais donc tu pouvais nous dire, dans un premier temps, les dates et ensuite, concrètement, ce que en jargon scout, on appelle la grille de camp. Qu'est-ce qui va se passer durant ces 4 jours? Voilà.
Alors les dates, elles sont très importantes. Retenez-les, marquez-les dans vos agendas, notez-les. Faites un nœud dans votre mouchoir du 27 au 30 août 2014 à Lusignan. Lusignan qui est une petite ville du Poitou-Charente où est née la fée Mélusine pour toute l'histoire. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur ce congrès? Alors déjà, premièrement, un petit scoop, c'est un petit scoop. D'ici quelques heures, vous pourrez découvrir la grille de programme avec tous les temps qui sont organisés sur le site du congrès, eudf2014.org. Vous y découvrirez la grille qui va être mise en ligne dans quelques heures, mais je vais pas vous laisser dans ce suspense, et découvrir un petit peu plus de ce qui va se passer. Alors, je pense que déjà, un congrès, c'est le congrès tel qu'on l'a imaginé, c'est d'abord camper. puisque c'est campé, c'est le témoignage de notre engagement durable au quotidien, à habiter dans la nature et à pour en connaître l'importance et les enjeux. Donc ce campisme implique une vie en collectivité dans la nature, organisée par sous-camps. Donc c'est des choses que je pense qu'en tant que responsable ou cadre, on a été appelé à voir ou à vivre. Donc nous avons 8 sous-camps qui seront répartis sur le lieu, avec une vie de sous-camp qui est organisée, une vie quotidienne, des services sur place. Il y aura aussi à faire la vaisselle, il y aura aussi des toilettes à nettoyer, donc pas de surprise de ce côté-là. Et ce campisme qu'on va tous vivre ensemble, ça sera une super occasion de, pour certains, de revivre un moment scout. Sur le programme, nous on a voulu axer autour de 3 mots qui sont jouer, chanter et rêver. Je pense que c'est l'état d'esprit de l'équipe qui a organisé ce congrès, avec sur les 2 grandes journées, donc puisque c'est sur 4 jours, mais il y aura une première, le premier jour c'est une demi-journée plutôt, et le dernier jour aussi, et les 2 journées du milieu qui seront sur 2 thématiques différentes. Le premier jour, ce sera la thématique de la spiritualité, une journée qu'on a intitulée Spitoyen. Et le deuxième jour, on aura une journée qui sera axée sur citoyen durable, pour parler de sa citoyenneté.
Et donc justement, si tu pouvais nous en dire peut-être un petit peu plus sur cette journée Spitoyen.
Alors Spitoyen, ça va être donc une journée qui va se prolonger donc depuis le matin jusqu'à la fin de la journée. Dans la matinée, les participants au congrès pourront rencontrer différents intervenants sous la forme de stands pour échanger sur la spiritualité dans nos vies, sur la spiritualité dans le mouvement, autour de problématiques qui sont à la fois pratiques, par exemple comment est-ce qu'on fait un moment spi, comment est-ce qu'on fait un moment de louange, mais aussi théoriques et des moments de réflexion sur l'importance de la spiritualité comme enjeu éducatif, et puis des boîtes à outils qui vont permettre aussi aux participants de vivre un moment spi ou de construire un moment spi. Et puis enfin, un questionnement sur l'enjeu de la spiritualité dans notre engagement citoyen, avec des témoignages de professionnels, de personnes qui sont engagées dans le monde spirituel, pas que des gens de confession protestante, mais on a l'intention que ça soit quelque chose de très interconfessionnel, mais aussi des gens qui sont pas forcément dans le milieu spirituel et qui veulent apporter une petite pierre à l'édifice. Des artistes, des journalistes seront également invités. Donc ça, ce sera la matinée. Et puis l'après-midi, on aura un retour sur ce qui a été vécu le matin, avec des grands témoins, des gens d'envergure nationale, comme on a proposé à Laurent Schlumberger d'intervenir, on en parlait tout à l'heure, pour ajouter leur témoignage et puis proposer une sorte d'envoi des réflexions qui ont été faites toute la journée. Et alors la journée, elle est entrecoupée d'un moment qu'on appelle par exemple les cafés. Donc je sais pas, c'est quand vous sortez d'un bon film, quand on a été au cinéma et qu'on sort d'un film qui nous a fait beaucoup réfléchir, on est super content de se poser avec les 2-3 copains avec qui on a été au cinéma et puis prendre un café pour refaire le monde, parler du film, réfléchir à tout ça. Et c'est ce qu'on souhaite proposer sur le congrès à la mi-journée, d'avoir un moment où on peut se poser avec ses copains pour parler du programme, parler spiritualité, parler citoyenneté.
Très bien, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et on va continuer ensuite sur la présentation de ce congrès. Doing it right, everybody will be dancing and we'll feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we'll feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we'll feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we'll feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we'll feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we'll feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right.
will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right.
If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right.
Doing it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing and we're feeling
alright. Retour en plateau, je suis Maxine et je suis éclaireuse à Passy. Vous venez d'écouter Doing It Right de Daft Punk et maintenant je vais vous présenter ma chronique. Aujourd'hui, le thème de l'émission est le congrès des éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. D'après le dictionnaire, un congrès est une réunion de personnes qui se rassemblent pour se communiquer leurs études ou s'échanger leurs idées. Le congrès, c'est plutôt un truc d'adulte. À mon âge, je ne me verrais pas aller à un congrès. Rester assise pendant je ne sais combien de temps à écouter les échanges d'opinions. Je pense que plus tard, je m'y intéresserai, mais là, ça ne m'inspire pas trop. En revanche, le thème du congrès cette année porte sur l'engagement, et ça, ça me parle. D'abord, parce que le scoutisme est avant tout un engagement personnel que j'ai pris quand j'ai commencé en tant que louvette. Je me suis engagée à être assidue, à faire de mon mieux et à être toujours prête. Ensuite, il existe toutes sortes d'engagements possibles, notamment envers les autres. Par exemple, la banque alimentaire à laquelle je participe tous les ans, ou cette chronique radio mensuelle à laquelle je me suis engagée. J'aime bien me sentir impliquée dans l'entraide pour les personnes qui ont moins de chance que moi, comme pour la banque alimentaire. Tenir un engagement, c'est pas toujours facile. On a d'autres sollicitations. On peut avoir la flemme, on peut oublier, ou on pense ne pas avoir le temps, ou il peut arriver que deux engagements se télescopent. Par exemple, j'ai reçu une invitation d'une amie le même week-end qu'un week-end d'éclaireuse. C'était difficile de choisir, mais au final, je n'y vais pas à mon week-end d'éclaireuse. Quand j'y réfléchis, c'est moins difficile de s'engager pour les autres, parce que c'est un échange. On reçoit toujours quelque chose, des sourires, des merci. On se sent utile.
Merci pour cette belle chronique. Applaudissements spontanés. Alors, difficile de reprendre la parole après une aussi belle chronique. On va maintenant s'intéresser à une partie très importante qu'on n'a pas encore abordée, qui est la question donc 100 ans d'avenir. On va donner la parole pour ça à Céline et à Guillaume sur concrètement ce qui a été mis en place dans ton groupe local à Saint-Germain.
Alors ouais, le congrès, on a dit que c'était fin août, mais il y a des choses qui se passent dès maintenant. Sur les réseaux sociaux, ça bouge. Mais il y a aussi le fait que le congrès, il se veut participatif, il se veut impliquant, il se veut mobilisateur. Et du coup, le congrès propose aux meutes et aux unités de la création de projets dans une démarche appelée « 100 ans d'avenir à construire ». Est-ce que tu veux juste nous en parler un petit peu, Pierre ?
Oui, 100 ans d'avenir à construire, je le disais tout à l'heure, on a fêté notre centenaire il y a 3 ans maintenant, et donc on est dans le deuxième centenaire du scoutisme unioniste, on a plein de choses à bâtir, on a un centenaire à construire, et par le lancement de ce congrès, c'est ça qu'on voulait lancer, c'est relancer ces actions de service en partenariat avec des associations, mais je pense que vous allez en parler tout à l'heure, mais ce que je voulais dire, c'est que cette démarche de 100 ans d'avenir à construire, elle est prégnante dans tout le programme qui va se dérouler à Lusignan, puisque on va proposer aux projets qui se montent pendant l'année de témoigner de témoigner de leurs projets pour inspirer, puis pour nourrir un peu la réflexion qu'il y aura sur le congrès. Et ce témoignage, on a l'intention d'accompagner aussi des équipes de responsables qui préparent des projets pendant l'année au cours d'un week-end qui aura lieu au mois d'avril et à l'occasion duquel on va construire ces témoignages pour faire en sorte qu'ils soient vivants, adaptés et que ça puisse refléter vraiment ce deuxième centenaire que on se veut super.
Et donc, il y a des enfants là partout en France qui vivent des choses en ce moment pour ce congrès. Et donc, toi, Guillaume, tu es responsable Louveteau dans les Yvelines et tu as choisi avec ton équipe de responsables de vous lancer dans cette aventure des 100 ans d'avenir à construire. Est-ce que tu peux nous présenter votre projet d'année?
Bah, cette année, on fait un partenariat avec une association qui s'appelle l'École de la philanthropie. Donc, c'est une association qui a 3-4 ans, il me semble, et qui jusqu'à maintenant intervenait dans des classes. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les enseignants à construire un projet avec leurs élèves tout au long de l'année. Donc ils ont une méthode en 6 étapes, enfin quelque chose de très carré quoi. Mmh. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de transposer ça à l'univers du scoutisme avec des louveteaux qu'on voit 10 fois dans l'année et pas tous les jours.
Ouais. Et du coup, toi en tant que responsable, quel intérêt tu y vois pour ton unité?
Bah, déjà, ça fait un bel objectif tous ensemble. On a le même but de faire un projet d'année qui soit mieux que celui de l'année dernière.
Ouais. Et
toujours mieux, toujours s'améliorer. Et puis, quelque chose auquel on ne pense pas trop, mais ça remplit quand même notre grille d'année. Plutôt que la tech du dimanche matin, bah là, le matin, on fait un peu de projet, puis ça change un peu des sorties classiques, quoi.
Ouais, j'imagine, ça doit les changer, ça doit les faire bien réfléchir. Et justement, j'ai lu un peu dans ce que tu nous as expliqué qu'ils ont choisi l'éducation à l'hôpital.
Ouais.
Comment ils ont pu choisir cette amie?
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait réfléchir par petits groupes d'affinité sur les sujets qui les touchaient et qu'est-ce qu'ils avaient envie, eux, de faire. Parce que c'est quelque chose qu'encourage l'école de la philanthropie.
Mm-hmm.
Le but, c'est que le projet vienne des enfants. Donc, du début à la fin, c'est eux qui sont censés trouver un sujet d'action, ensuite quelque chose de plus particulier. Donc là, le sujet d'action, ce serait l'éducation,
mm-hmm.
et plus particulièrement l'éducation à l'hôpital. Et c'est eux, en fait, qui en sont venus à ça, quoi. Ils hésitaient un peu entre l'éducation, la santé et le travail. Et finalement, on s'est tous mis d'accord sur l'éducation à l'hôpital.
C'est extra, ouais. Je trouve ça super pour des jeunes de se poser ce genre de questions. Et justement, je sais que vous avez fait intervenir des personnages comme un avocat en environnement et un sans-abri. C'est quand même des thèmes sérieux. Ils en sont venus à choisir un thème sérieux. Et comment ont réagi les louveteaux face à ces questions quand même très terre-à-terre?
Bah, en fait, c'est pas trop comme ça qu'on voyait les choses, nous.
Mm-hmm.
L'école de la philanthropie, eux, ils disent qu'il faut commencer par faire venir en classe un intervenant, un ancien philanthrope ou quelqu'un qui est engagé dans une association. Bah, nous, on s'est dit qu'au scout, on faisait des jeux. On avait des personnages déguisés qui intervenaient comme ça. Donc, on en est venu à faire un grand jeu sur un après-midi avec un avocat en environnement, un sans-abri et puis... Anna la philanthrope, qui était notre personnage de la journée. Et en fait, les enfants, ils ont pris ça comme un jeu.
Mm-hmm.
D'ailleurs, ça nous a un peu surpris. On était un peu déstabilisés parce que à la fin du jeu, ils n'avaient pas vraiment compris que c'était la réalité, quoi.
Mm-hmm.
Ils étaient encore un peu dans le jeu et on a vraiment dû les calmer et puis leur expliquer que c'était un vrai projet qui allait vraiment se passer et qu'on allait vraiment changer le monde, quoi.
C'est un peu comme si, en fait, les enfants, ils apprenaient en jouant. Mais c'est extra. C'est un peu la base de nos scoutismes. Donc, c'est que ça fonctionne bien. Et j'avais une question par rapport aux parents. Parce que, du coup, ouais, vous abordez des thèmes quand même sérieux cette année.
Ouais.
Peut-être les autres années aussi, bien sûr. Mais comment est-ce qu'ils ont perçu votre démarche, les parents?
Bah, c'est vrai que quand on leur a dit qu'on faisait l'éducation à l'hôpital,
mm-hmm.
Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont cru que c'était nous qui leur avions imposé.
Mm-hmm.
Mais en fait, c'est vraiment eux qui ont réfléchi ensemble. Nous, on n'a pas intervenu dans le débat. Et c'est d'eux-mêmes que c'est venu. Donc, une fois qu'on a expliqué ça aux parents qui ont bien compris, ils nous ont soutenus. Enfin, on a la chance d'avoir des parents qui nous soutiennent tout le temps. Que ce soit les CGL ou même les parents qui n'ont pas trop le temps de s'engager. Mmh. CGL, c'est les conseillers de groupe local. Ils nous soutiennent toujours. Enfin, dès qu'on fait quelque chose, ils trouvent ça bien et ils nous appuient. Donc, il y a eu un bon retour des parents. Ouais.
Ok, j'avais juste une dernière question. Comment ça s'organise un peu la fin d'année là, pour votre équipe et les louveteaux?
Bah là, il y a 10 jours, on a écrit, enfin les enfants ont écrit une lettre pour deux associations qu'on avait trouvées justement par les parents, par notre ancienne CGL et notre parent, on avait trouvé des associations, et donc on leur a écrit une lettre pour leur demander si on pouvait les aider. On s'est présenté, donc j'ai envoyé la lettre par mail. Et donc, a priori, le retour des deux associations, que sont l'école à l'hôpital et enfants@l'hôpital, les retours sont très positifs. Et donc, on va se rencontrer sous peu là, pour voir ce qu'on fait concrètement.
Ah bah super, félicitations et bonne chance pour la suite alors.
Merci.
Nous n'avons pas, hélas, le temps pour aborder la quatrième partie de notre émission, qui était un congrès pour tendre la main, mais nous avons une belle conclusion sur comment est-ce que d'un projet de partenariat peut naître d'autres projets locaux. C'était donc Ça se discute, le magazine mensuel des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, qui, je vous le rappelle ce soir, parlait du congrès qui se déroulera, Pierre, du
27 au 30 août 2014 à Lusignan,
qui aborde trois thématiques.
La spiritualité,
jouer,
chanter, rêver.
Très bien, et je vous rappelle donc cet événement est ouvert à tous. Je suis désolé pour cette conclusion un petit peu rapide et cette conclusion un peu improvisée. On se retrouve donc dans un mois pour le quatrième lundi du mois de mars. D'ici là, on se retrouve dans la rue, dans les forêts, dans nos temples. Et je me permettrai de faire une petite réflexion pour conclure. Dans un mois, votez. C'est les élections municipales et l'engagement, ça passe aussi par le fait de faire ce geste citoyen. Bonne soirée à l'écoute de Fréquences Protestantes. Girl, I never loved one like you.